Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Quentin. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci à toi de m'avoir invité.
Donc, tu es magicien professionnel, c'est ça ?
C'est ça.
Et tu es comédien ?
Ouais, absolument.
Dans des courts-métrages à Strasbourg ?
Courts-métrages à Strasbourg, ou ouais, courts-métrages un peu... pas qu'à Strasbourg, mais entre autres, surtout à Strasbourg, parce qu'on est à Stras, hein. Mais je suis comédien aussi depuis, donc ça fait 15 ans que je suis du théâtre, mais en ce moment je joue dans une pièce à Paris avec la compagnie Le Veilleur. Ça va faire deux petites années qu'on joue cette pièce, je dirais, maintenant, et puis voilà, ça se passe bien.
D'accord. Et moi je veux savoir, depuis combien de temps est-ce que tu fais de la magie ?
La magie, j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Donc tu vois, j'en ai 24 cette année, donc ça fait 8-9 ans là.
D'accord, et ça t'est venu comment ?
Alors, très bêtement, donc il y a un mec barbu qui vient un soir de pluie te chercher dans ta chambre sous l'escalier, qui t'emmène dans un lieu magnifique.
Ouais.
Non, c'est très bateau. J'ai pas commencé tout petit comme beaucoup. C'est juste que je me suis retrouvé pour mes études à Colmar au lycée Camissé pour l'aspect théâtre. Et il y avait un mec dans ma chambre d'internat qui s'appelle Lionel. Qui est magicien et qui du coup ça m'a tout de suite très intrigué et j'ai voulu apprendre en partant de là, donc il m'a montré quelques trucs et ça c'était donc il y a 7-8 ans comme on a dit là et du coup ben, je suis autodidacte depuis et voilà, très bêtement hein, c'est en voyant quelqu'un faire, il a accepté de m'apprendre et c'est parti comme ça.
Bah, c'est souvent que les aventures elles partent comme ça en fait, bêtement,
et les choses se sont bien faites, tu vois, parce que enfin je veux dire, les choses s'agencent toujours de manière très étrange et très très bien, tu vois, parce que ce gars-là, juste derrière, on a créé un spectacle ensemble, qui s'est joué, on avait créé notre compagnie et tout, et ça avait bien marché, et du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvé avec lui, tu vois, c'est-à-dire, on était ensemble à l'internat, mais on était aussi ensemble en cours, on était ensemble dans l'aspect théâtre, enfin, ouais. Bon, bref, on était vraiment H24 ensemble, et du coup, ça roulait hyper bien, il y avait vraiment une bonne entente, aussi bien théâtralement que, enfin, artistiquement, en fait, tu vois, et du coup, on s'est tout de suite trouvé dans là-dedans et on a pu créer rapidement, efficacement et partager la passion et ouais, les choses s'agencent bien, les choses se sont bien agencées à ce moment-là en tout cas.
Est-ce que t'as pas eu d'hésitation entre le je suis autodidacte, je sais pas, et le pas, ou est-ce que ça a été plus facile parce que vous avez été deux?
Bah alors de toute façon ça a été plus facile parce qu'on était deux, ouais. Et que, bon, Lionel faisait quand même une grande partie de la magie, on va pas se mentir. Moi j'étais chargé de l'écriture et beaucoup du théâtre aussi, mais c'est surtout Lionel qui faisait de la magie, mais j'en faisais un peu quand même. J'ai une façon de procéder, mais dans tous les pans de ma vie, qui est un peu, qui est pas particulière, mais c'est-à-dire sur les trucs qui m'ennuient, je suis procrastinateur de fou, mais sur les trucs qui me passionnent, je passe à l'action très rapidement. Et quand il a fallu faire de la magie, très rapidement j'ai eu l'envie d'aller me confronter aux gens. Et au-delà du fait de savoir faire des tours et de pouvoir montrer à tes potes au lycée, voilà, tu comprends, hein. L'envie de faire plus et l'envie d'aller devant des gens, parce que j'avais déjà la confiance avec le théâtre, ben ça m'a beaucoup excité et j'ai senti l'envie de faire ça assez rapidement. Ouais. L'hésitation, non, le stress, oui, mais c'est un bon stress, tu vois, je pense que c'est ce qui motive beaucoup de gens, c'est ce qui file la détermination aussi, je crois. Ouais. Bah je crois que sans ça, je sais pas où je serais aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Tu vois, enfin je veux dire, si on prend le circuit scolaire, ben j'ai redoublé trois fois, j'ai le bac. On peut pas dire que j'ai une masse de diplômes qui me permettent de faire beaucoup de choses. J'ai un bac L, spécialité théâtre. Tu vois, je suis un troubadour, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, à un moment donné où je suis un ménestrel.
Ouais, mais c'était à refaire, t'es content de ton parcours ?
J'en fais pareil.
Ouais, voilà.
J'en fais tout pareil.
C'est qui le plus important ?
Ouais, ouais, bah, de toute façon. Je sais pas, le bonheur avant tout, tu vois, et je refuse de faire quelque chose, même si des fois t'es obligé de faire ce que t'aimes pas faire pour que tu puisses vivre comme t'as envie de vivre, mais il me faut le facteur plaisir pour que je sois 100% efficient dans ce que je fais, et je trouve que c'est hyper important la notion de plaisir, qu'on arrive à s'enfermer dans un schéma où il n'y a pas de plaisir et que le seul plaisir il est quand t'arrêtes de travailler. Mais ça me fait peur, parce que beaucoup de gens, c'est 35-39 heures semaine, ça. Et moi, ça me fait flipper d'avoir 39 heures dans la semaine où je kiffe pas.
Est-ce que tu t'entraînes tous les jours à la magie ?
Ouais, bien sûr.
Tout le temps ?
Bien sûr. Bah, en fait, si tu veux, c'est ça ce qui est... Moi, je fais de la magie pour les humains. Je fais de la magie pour les autres. C'est d'ailleurs le seul art qui a besoin du regard de quelqu'un pour exister. Quelqu'un qui fait du théâtre chez lui, ben, il y aura du théâtre. Quelqu'un qui joue un instrument chez lui, alors que la magie, elle prend place dans l'esprit d'une personne qui ne connaît pas. C'est-à-dire que si moi je fais de la magie chez moi, ben, c'est un ensemble de techniques. Pour toi, c'est de la magie. Ça, c'est seulement dans le regard de l'autre que la magie existe. Moi, je pars vraiment de là pour construire ce que je fais en magie. J'ai besoin des autres. Ça ne m'intéresse pas de pas savoir bien faire. Il y a un moment donné, si tu veux t'intéresser aux autres, il faut passer au-delà de la technique. Et si tu veux passer au-delà de la technique, pour te concentrer justement sur l'humain et comment tu vas présenter, comment tu amènes la psychologie et tout, bah, il faut que tu travailles. Je suis en moyenne 1h30 par jour avec, bon, je dis des cartes, mais en faisant de la magie, quoi, tu vois.
Tu m'as dit que tu avais envie de réécrire un spectacle, là.
C'est en cours.
Tu écris actuellement.
C'est en cours, ouais. Sans en dire de trop, parce que c'est encore c'est encore tout naissant, mais ça avance très très bien. C'est un spectacle que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que ce soit un spectacle de magie. Et j'ai pas envie que ce soit un spectacle de théâtre.
D'accord.
J'ai envie que ce soit les deux. En fait, j'ai envie que ce soit un truc qu'on n'ait jamais vu.
D'accord.
Et dans l'alliage, tu vois, qu'il y ait une réelle théâtralité et qu'il n'y ait pas le théâtre qui serve la magie ou la magie qui serve le théâtre. Je veux que l'un et l'autre soient indissociables. Et aussi bien à l'époque, quand j'avais écrit mes premiers spectacles de magie, je parlais des problématiques qui m'intéressaient à l'époque, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre, tu vois, parce que c'est le moment où j'avais déménagé à Colmar et puis je rencontrais plein de nouvelles personnes et tout, donc il y avait cette problématique-là qui était là. Et aujourd'hui, ce spectacle-là va parler de la mort. J'ai envie de parler de la mort.
La mort, sens brut, ou de la mort des projets, etc.
La mort.
La mort.
Sens brut.
D'accord.
J'ai envie de parler de la mort sens brut, j'ai envie de parler des expériences de mort imminente et d'arriver à faire un spectacle là-dessus.
Mais... Sauf que comme ça, on se dit, alors c'est bien parce qu'on démocratise un peu la mort qui est un réel problème, même avec le Covid, etc. Si tout le monde flippe, c'est parce que on n'a jamais été aussi confronté à la mort. Et de plus en plus, enfin, c'est mon point de vue. Après, je sais pas le fond du truc. Et je sais que, on a une course folle.
Moi, je trouve ça intéressant que tu dises que la mort est un problème.
Non, mais oui, non, mais c'est devenu un problème en fait. Tu vois, enfin, en fait, c'est un truc naturel qui fait peur à tout le monde, en fait.
Oui, ça fait peur.
Oui, et qu'on... En fait, en ayant peur de la mort, le trois quarts des gens passent même à côté de leur vie.
Oui, bah ça, mais ça, c'est certain. Je suis complètement d'accord avec toi. Même en me confrontant dans mes recherches avec l'expérience de mort imminente, c'est assez fou parce que ça me fait remettre plein de choses en question sur la mort. Plein. De me dire que ça représente l'expérience de mort imminente, ça représente 4% de la population mondiale qui ont vécu ça. Et ils racontent tous la même chose, indépendamment de leur culture ou de leur religion.
Le tunnel, le bien-être.
Le tunnel, pas nécessairement. Ouais. Il y a des facteurs qui reviennent, notamment la vision à 360 degrés qui revient. Il y a la sortie extracorporelle.
Ouais, de voir la scène.
De voir la scène du dessus, de se retrouver également dans un endroit. Avec des présences de lumière qui te connaissent.
Oui.
Et même s'ils ont l'impression de les avoir jamais vus, ils les connaissent. On parle pas du tout de forme humaine ou quoi. Et il y a un choix à faire sur si on veut rester ou si on veut retourner dans le corps. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'il n'y a aucun problème avec ça. C'est que pour eux, ils sont morts. Ils le savent, et c'est ok. Parce qu'il y a un amour qui est là, qu'on ne conçoit pas, visiblement, apparemment. C'est très difficile d'écouter des témoignages sur la mort imminente, parce que,
moi, j'ai déjà entendu,
parce que eux-mêmes ne savent pas trop comment en parler, tellement ça paraît délirant. Et même moi, quand j'en parle là, il y a des moments où tu te dis ça peut paraître délirant et tout. Je fais que... c'est pas une expérience que j'ai eue moi, je fais que relater des faits que j'ai eu en récoltant des témoignages. Ils parlent d'un amour qu'on ne connaît pas du tout ici, parce que c'est un amour sans jugement. Il y a aucun truc juste, ça aime, et totalement, et de manière puissante, tu vois. Et ils savent que s'ils décident de ne pas revenir, ben ils vont devoir faire quelques pas vers eux, et que s'ils franchissent une certaine ligne, ou un truc, ou une barrière, ou une haie, ou quoi que ce soit, c'était fini. Et il y a un autre truc que j'ai vu. Alors, il faut que je me renseigne plus parce que j'ai pas envie de raconter de conneries. Mais il y a parce que tous ces gens racontent des expériences folles. Je veux dire folles dans le sens trop bien. Mais il y a des gens qui ont vécu ce qu'on appelle des expériences de mort imminente infernale. Qui est l'inverse. Où ils se retrouvent dans un endroit de hurlements, de torture, de mort. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, oh, ouais, mais attends, ça veut dire que, en fait, il y a les deux, quoi. Et c'est hyper intéressant. Hyper intéressant.
T'es venu comment là-dessus en fait? Enfin,
Sur la.
sur son, enfin, je me dis comment tu t'intéresses à ça, tu vois?
Ben, alors, déjà, les questionnements sur la mort, ils sont venus très tôt. Parce que les questionnements sur ma vie sont venus très tôt. Et je crois que parler de la mort, c'est aussi parler de la vie.
C'est ce que je pensais.
Tu vois? Donc, pour moi, les questionnements sur la mort, ils sont venus très très tôt. Maintenant, j'ai envie d'en parler parce que j'ai aussi. Il y a un magicien anglais qui s'appelle Derren Brown. Tout est sur Netflix. Allez voir Derren Brown. Et Derren Brown, il a fait un spectacle qui est sur Netflix qui s'appelle Miracle. Et dans Miracle, il parle du charlatanisme, des gourous qui se servent de la religion et de. Tu vois ce que je veux dire? Et de la faiblesse des gens. Voilà. Même si je ne doute pas que ça peut exister pour de vrai, ce truc-là, peut-être, probablement, j'ai pas de jugement là-dessus, mais en tout cas, il y a des charlatans là-dedans. Et il dit que lui n'a pas de compétences particulières, de dons, de je ne sais quoi. Il dit que qu'il a un ensemble de techniques, et voilà. Seulement, il va utiliser le langage de la Bible pour faire tout. Et il y a tout un passage du spectacle qui est avec le langage de la Bible, où il se sert de ça, il joue le charlatan. Et en fait, les trucs qu'il fait sont tellement énormes que t'arrives pas à te dire que c'est un charlatan. C'est très puissant comme spectacle. Et seulement comme il se sert du langage de la Bible, ce qu'il fait, c'est plus de l'ordre de la magie, c'est de l'ordre du divin. Tu vois, il y a un truc qui est connoté comme ça. On n'est plus là, je suis plus là à te présenter un spectacle de magie, je suis là à te faire des effets. Tu vois, par exemple, il y a une nana qui est myope dans le public, il lui enlève sa myopie pendant quelques secondes.
Ah, c'est ouais.
Tu vois? Il se sert de trucs qui sont du domaine du miracle, et du coup, comme c'est du domaine du miracle, c'est plus de la magie, et c'est plus présenté comme de la magie, c'est présenté comme du divin. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me rapprocher d'un effet qui fait oublier que c'est de la magie? Et je me dis que parler de la mort, et parler des expériences de mort imminente, peut être un bon angle pour arriver à amener une sensation qui fait oublier la magie, et qui va aussi me permettre d'embarquer les gens dans une histoire de théâtre. Je trouve que la mort, c'est fascinant. Je suis très très intrigué par la mort. Et je me disais, comment je peux parler d'un truc qui peut amener un caractère. Alors je dis pas que. Attention, quand je dis qu'amener un caractère divin, je dis pas que je vais faire un truc qui est divin, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais qui amène une sensation très différente chez le spectateur, sans parler de religion, qui est un sujet casse-gueule, et j'ai pas envie de parler. La mort, c'est déjà tendu, mais je me suis dit, en fait, la mort, c'est cool. Parce que j'ai pas à parler de religion, parce que c'est indépendant de toutes les religions. C'est un des quelques grands points communs qu'on a tous, c'est qu'on va mourir, et c'est quelque chose qui va nous parler à tous. Et de là, ça m'intéresse. Et de là, le débat peut commencer. Et maintenant, quel est le meilleur moyen de parler de la mort que de gens qui ne se connaissent pas et qui témoignent tous de la même chose, qui ont été déclarés cliniquement morts pendant un temps, et qui en sont revenus?
C'est pour moi hyper important de faire des trucs en fait qui nous passionnent. Parce qu'en fait, si tu fais sur un sujet bidon, lambda, que tout le monde a fait, oh, tu vas te faire chier.
Mais grave, 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 c'est pas le but de se faire chier en plus. D'autant que si tu fais un truc que tu crées, t'as intérêt à prendre un sujet qui te passionne plutôt qu'un sujet qui te fait chier, hein, parce que dès que tu pars sur un truc que tu crées, ben, c'est tout de suite plusieurs années d'engagement.
Combien de temps tu mets pour faire un spectacle?
Écoute, là, je me laisse un an de créa.
Ouais.
Normalement, les autres, on les avait créés avec Lionel en 3 mois, 3 mois et demi.
Ils étaient deux, quoi.
On était deux, mais surtout le sujet n'était pas aussi tendu. Et j'ai vraiment envie de faire un truc très très fort. Et cette ambition-là ne peut pas s'accomplir en 3 mois.
Non.
Et je veux vraiment arriver avec un truc béton de chez béton. Tu vois. Donc, un an de créa, un an et demi de créa, ça me paraît bien.
Il faut tenter, hein.
Oui, bah alors là.
Non, mais c'est le truc de base, genre, faut tenter. On s'en fout, au pire, les gens, ben, ils se foutent de ta gueule. Et en fait, quand je creuse de plus en plus le sujet de l'échec, je me rends compte que l'échec, en fait, c'est peut-être nous, quand on le subit, qu'on n'ose pas en parler et qu'on est peut-être et on cache ça à cause de l'ego, de notre ego. Et est-ce que les gens vraiment nous diabolisent parce qu'on a eu un échec? Ou c'est peut-être nous qui abusons, tu vois, de notre image?
Je sais pas, ça dépend.
Ça dépend. Bon, après, c'est vrai, ouais, il y a des personnes hyper malveillantes, de toute manière.
Ben oui, il y a des personnes hyper malveillantes, et même, je pense que ce qu'on appelle les haters, ou tu vois, il y en a tout le temps. Si t'as une image marquée, t'auras soit des gens qui t'adorent, soit des gens qui te détestent, donc il faut savoir dealer avec les deux, tu vois. Un des entrepreneurs que je kiffe le plus au monde, il s'appelle Gary Vaynerchuk, Gary V, sur YouTube, je sais pas si tu connais.
Non.
Qui a une boîte qui s'appelle VaynerMedia, entre autres, qui fait 200 millions de chiffre d'affaires par an, tu
vois. Ça va.
C'est un mec très 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 impressionnant, et il dit, mais t'imagines, les haters, c'est des mecs qui n'aiment tellement pas leur vie, qui vont passer du temps, la ressource la plus précieuse, à aller commenter des vidéos de quelqu'un qui kiffe ce qu'il fait. Il dit que tous les haters, il les prend avec tellement de bienveillance et tellement de... Je te plains, en fait.
Mais c'est ça.
Je te plains. Parce que ça doit être dur pour toi. Tu vois.
Vu qu'on parle d'échecs, moi, j'aurais savoir, est-ce que ça a été facile à chaque fois d'être entrepreneur dans la magie?
Alors, non. Non, bien sûr que non. Ça n'a même jamais été facile, en fait. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, là, c'est facile. Ça n'existe pas. Tu sais, comment dire, qu'est-ce que...
Non, mais disons la vérité, tu vois. Non, mais en fait, c'est ça. C'est que moi, je le sais que arriver au truc, ouais, c'est bien, on est cool, je crois que ça n'existe pas vraiment.
Non, mais ça ne m'intéresse même pas, en fait. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. Je préfère... Je préfère vivre mal toute ma vie, mais faire un truc que je kiffe vraiment, plutôt que de gagner 8000 dans un truc qui me fait chier. Le choix est si vite fait, si tu savais. Le choix est très très vite fait. Ça ne m'intéresse pas, la stabilité. J'ai aucun intérêt à rentrer dans un confort. J'ai tout intérêt à sortir de ma zone de confort. Et à aller chercher... la merde qui est en moi, machin et tout, aller remuer tout ça, tu vois. Ça sert à ça aussi de faire un spectacle sur la mort. Je dis pas que je suis à l'aise avec la mort, c'est pas du tout ça ce que je dis quand je crée un spectacle sur la mort. C'est que ça m'intrigue, c'est que ça bouge quelque chose en moi, c'est que aussi j'ai fait des tentatives de suicide, c'est que j'ai fait des trucs comme ça, tu vois. Il y a un truc où je me sens très proche de la mort, et j'ai appris à aimer ça, tu vois. C'est un peu chelou. Mais j'ai appris à aimer cette sensation de me sentir très mortel, de me sentir très vulnérable ou de me sentir impuissant, sans forcément que ça s'ancre en moi et que je me dise « ouais, ça y est, t'es impuissant ». C'est pas le cas. Mais non, ça a pas toujours été facile, tu vois. Des périodes où pendant, si tu parles financièrement, des périodes pendant 4-5 mois où tu fais zéro.
Ouais, je connais.
Ça rime à quoi alors que sur un mois de décembre, tu peux monter à 5-6 000. Et derrière, tu peux faire une erreur sur un truc et plus personne t'appelle. C'est difficile, tu vois. C'est pas évident. Tu dois toujours te remettre en question. Tu dois toujours travailler. Tu dois toujours faire gaffe à être aligné avec toi. C'est un travail de tous les jours, quoi. Non, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, même. Est-ce que tu connais Eric Thomas, qui est un motivational speaker?
Un quoi?
Un conférencier de motivation?
Ah non. Mais je connais pas encore tout le monde. Je crois que tu connais tellement plus de personnes que
Eric moi. Eric Thomas, c'est formidable. Pour moi, c'est Gary Vee et Eric Thomas.
D'accord.
Et Tony Robbins. Mais Eric Thomas, c'est vraiment de la motivation. Et Gary Vee, c'est vraiment du business. Et Eric Thomas, dans une de ses vidéos, il dit... Alors, la traduction en français, c'est... greatness, c'est l'excellence. L'excellence... ou la bienveillance ou la gratitude, c'est se rappeler dans le noir ce que le créateur nous a appris dans la lumière. Enfin, le créateur, que la vie t'a appris dans la lumière, quoi. Et c'est vraiment ça, tu vois. Je doute pas un seul moment qu'à un moment donné, dans ce process de créa sur la mort, je vais me retrouver dans une phase de down, tu vois. C'est sûr.
Non, mais c'est normal. Mais tout le monde est dans le down, une fois, il y a de l'euphorie.
Et en même temps, je suis convaincu que c'est là que j'en parlerai le mieux. tu vois. Mmh. Je suis convaincu de ça. Et j'ai très hâte de cette période où je vais aller mal. Pour justement pouvoir écrire mieux. Parce que je sais que ce qui va sortir sur le papier sera beaucoup plus viscéral.
Ah oui.
Et ce qui est plus viscéral est tout de suite plus puissant. Tu vois. Dans le premier bouquin que j'ai écrit, dans Brasier, qui est un bouquin que j'avais écrit quand j'étais en dépression, où je décortiquais toutes les sensations sur tous les plans pendant que j'étais en dépression, mais dans un truc un peu théâtralisé, quoi, tu vois. Et ben quand je fais lire ces textes là à des gens, c'est je dis pas que c'est la qualité de l'écriture ou le texte ou quoi, tu vois, qui rend la chose très puissante, parce que les textes sont puissants, mais c'est juste que comme c'est viscéral et que ça a été urgent à écrire, et ben boum, ça touche à un autre endroit, tu vois. Et pour moi, le caractère viscéral est hyper important. Mmh. Tu vois, dans un process de créa, il faut que tu le sentes dans tes tripes. Il faut que tu le... Tu vois.
Bah, c'est comme un peu les musiciens, ils disent qu'ils écrivent les meilleures musiques quand ils sont tristes.
Mmh. C'est ce que la majorité des écrivains vont me dire. Hein. Chacun va te dire que... Et encore, t'as des gens qui arrivent à écrire dans la joie.
Ouais.
Moi, j'ai du mal à écrire dans la joie, beaucoup. Mais moi, je trouve ça très bien. Tu vois. Je trouve ça très bien parce que c'est des reporters, en fait. Mmh. Les gens qui écrivent quand ils sont mal, c'est des reporters. Ils vont sur le terrain du « je vais mal » et ils décident de tout décortiquer. Et c'est encore plus difficile de tout décortiquer plutôt que de simplement essayer d'aller mieux.
Bah surtout dans une société où on prône la pensée positive, tu vois. Le bonheur, le « waouh, j'ai une vie de rêve » avec les réseaux sociaux, etc. Mmh. Et je trouve que ça manque de part de réalité.
Ouais, je pense qu'il y a aussi un souci pour pas mal de gens, en fait, d'exposer sa vulnérabilité.
Ah oui.
Tu vois. Et moi, je pense que la vulnérabilité, c'est une des plus grandes forces. Mm. Tu vois. Je pense qu'il faut exposer ses vulnérabilités, c'est ok.
Mais en fait, t'es intouchable. Moi, j'ai entendu cette phrase en mode.
C'est vrai.
Ce que si tu dis les choses, mais t'es intouchable.
C'est vrai.
Qu'est-ce que tu veux me détruire, en fait? Ouais, c'est pas grave.
Ça fait quelques années que je pratique un truc. Alors, des périodes avec et des périodes sans, mais en ce moment, je suis dans une période avec. Je pratique l'honnêteté radicale.
Ah d'accord.
Attention, parce que c'est pas l'honnêteté radicale, c'est pas dire tout ce qu'on pense.
Oui.
Hein, c'est pas ça. Mais c'est penser tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, je suis pas obligé d'ouvrir ma gueule, mais tu sais que quand je vais ouvrir ma gueule, ce sera pour te dire ce que je pense vraiment. Enfin, ma réalité à moi, qui n'est pas forcément la réalité universelle. Mais je me rends compte en fait que quand tu dis vraiment les choses, que tu parles, que ce soit en parlant de toi ou que ce soit en parlant des autres, je peux te dire que quand tu parles à quelqu'un et qu'il te fait chier, et que ça déborde, et que tu lui dis, écoute là, franchement, ça me saoule ce que tu me dis. Enfin, la conversation me saoule. J'ai pas envie que tu le prennes mal ni rien. J'ai juste envie de te dire que la conversation là me convient pas. Que je suis pas ok avec ça. Ça me saoule. Voilà.
Mais des fois, c'est mieux que de rester avec quelqu'un, commencer à t'épuiser, à te bouffer. Et toi, t'es en mode comment je m'en sors et
mais
tout.
Même,
et
parce que,
faire un schéma.
Mais même en fait, parce que je comprends pas. Ce genre de truc, quand quelqu'un te saoule, tu dis ça aux gens que t'aimes. Aux gens que t'aimes, t'es en mesure de leur dire qu'ils te saoulent à des moments, c'est ok, tu sais que ça va rien briser. Pourquoi on pourrait pas le faire avec des lambda et des gens qu'on aime pas?
Ouais, c'est vrai.
Je comprends pas, moi. Pourquoi? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qu'on aime, on a le droit de leur infliger des trucs, mais les gens qu'on aime pas et les gens que machin, on n'a pas le droit
c'est
de...
C'est pas l'image qu'on a pas envie de se détruire. Enfin, genre l'envie d'être
mais
aimé.
Mais oui, mais si on expose notre vulnérabilité, c'est qu'on s'en fout un petit peu de notre image aussi, non?
T'en fous si les gens ils apprécient pas ce que tu dis.
Ouais.
Et alors avec des gens que tu connais pas, que tu vas pas revoir, s'ils te saoulent, voilà.
Bah de toute manière dans le business, si tu affirmes une position forte, du coup tu vas avoir des haters ou des gens ultra fans. Mais c'est dans ces gens ultra fans que tu vas avoir tes clients.
Bah ouais.
Parce qu'ils vont être hyper attachés à toi. Et du coup tu vas pouvoir les closer beaucoup plus vite. Tu vois, si on parle d'entrepreneuriat pur et dur. Donc ça sert d'ouvrir sa gueule. Maintenant dans la vie, ouvrir sa gueule, soit tu auras des haters vraiment pareils, mais en IRL, soit tu vas avoir des gens qui te kiffent énormément. J'ai cette chance-là d'avoir ça et d'être ok avec ça. Mais par contre, tu vois, par exemple, aujourd'hui, les gens que je kiffe vraiment, c'est même pas des amis. C'est ma famille, quoi. Mm-hmm. Tu vois. Et je sais que, par exemple, l'année prochaine, quand je me barre à Lyon, je n'ai aucun... je me fais aucun souci pour la distance, quoi. Mais zéro. Alors là, ces mecs-là, ils seront avec moi jusqu'à la mort. Enfin, je dis ça maintenant, mais tu
sais, non, mais c'est à l'instant T.
On sait pas ce qui va se passer, mais tu vois, là, dans l'immédiat, mais je ferai tout pour eux.
Et là, donc tu vas partir à Lyon. L'aventure strasbourgeoise, t'en as pensé quoi?
J'ai adoré. J'ai adoré, je suis arrivé il y a 6 ans. Et ça a été la première ville où j'ai été indépendant. Je veux dire, où je vivais tout seul et tout, tu vois. Donc, j'ai été hyper heureux de ça. Alors là, j'ai dû partir plutôt de Strasbourg pour des événements un peu pas cool. On pourra en parler si tu veux. Mais j'adore cette ville parce que je la trouve très jeune, je la trouve très dynamique, je la trouve très créatrice, je la trouve très culturelle. Je la trouve très ouverte, très belle. Je trouve que c'est un formidable endroit, Strasbourg. Tu vois, il y a vraiment des personnes formidables et des personnes qui ont la motivation de t'aider. Je dis pas qu'il faut forcément se faire aider, mais je dis qu'en tout cas, si t'as envie de le faire et de rencontrer des gens, les gens sont là pour être rencontrés à Strasbourg. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres villes. Mais j'ai l'impression qu'ici, les gens attendent de se rencontrer entre eux.
Ouais. Et il y a des côtés sombres.
Bien sûr.
Que t'as vécu. Que t'as traversé avant le confinement ou après le confinement. Ou pendant.
Les deux.
Ouais.
Il y a eu les deux, hein. Ça dépend de quelle phase sombre tu veux qu'on parle.
Ben, c'est à toi de me dire ce que t'as envie de parler, de dire que Strasbourg c'est bien, mais il y a à mes yeux, à ce mauvais côté que tu peux te faire griller pour un tout et un rien.
Ouais,
et
pas possible, alors, on peut parler de ça. J'ai eu envie de faire du coaching avant le confinement. Hein,
quel type de coaching?
Life. Et du coup, j'ai commencé en fin décembre, début janvier. Et en fait, j'ai tellement bombardé avec ça que le réseau strasbourgeois que j'avais m'a complètement désavoué. Totalement. Et je m'arrêtais pas, en fait, je m'entêtais là-dedans. Je me disais, mais en fait, c'est eux qui comprennent pas encore. Tu vois, j'étais assez égotique là-dessus. Je me disais, je suis le seul qui va à contresens, mais c'est les autres qui ont tort, tu vois. Et en fait, ils ont tous commencé à me désavouer. Ça a clairement coulé mon business de magie à ce moment-là, en début d'année. Là. Bon, là, évidemment, on est en confinement, donc je suis toujours pas, tu vois. Mais ça a effectivement amené les gens à m'accuser d'abus de faiblesse. Parce que je vendais assez cher ces coachings qui duraient entre 6 mois et 1 an. J'en ai pas vendu un seul.
Ouais. Mais après, quand t'es porté par un projet où tu trouves que c'est bien, il y a quelque chose, je comprends que t'as envie de
croire. Après, en fait, derrière, tu vois, le truc qu'il y a, c'est que plus personne m'appelait pour la magie, du coup, et j'avais plus de rentrée d'argent. J'avais énormément de charges fixes à Strasbourg, et je me suis retrouvé pendant les 6 derniers mois à couler financièrement, je veux dire. Puis après, évidemment, tu coules financièrement, et il y a le moral qui suit derrière, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est sûr que Strasbourg, l'Alsace, c'est un grand village, tout le monde se connaît, tout le monde parle. À partir du moment où le premier terme d'abus de faiblesse est rentré en compte, et ben tout le monde a commencé à m'accuser d'abus de faiblesse, ce qui est tout à fait discutable, je suis pas d'accord. Par contre, je suis d'accord que j'aurais dû me focus sur la magie. Je pense que c'est une grosse erreur que j'ai fait sur les derniers temps, c'est que je me suis plus considéré comme un entrepreneur, alors que l'entrepreneur, c'est le statut que j'ai. Mais je suis pas entrepreneur, je suis artiste, en fait. Je fais de la magie, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de faire ça, tu vois.
Mais justement, est-ce que cette erreur ne t'a pas recentré sur vraiment ce que tu veux faire?
Si, totalement. À quel prix? Bon, pour l'instant,
il y a toujours un prix à
payer. Pour l'instant, j'en paye le prix fort, tu vois. J'ai dû quitter Strasbourg. J'ai dû prendre un travail à côté. Voilà, c'est pas des choses qui sont évidentes pour moi. J'ai jamais travaillé en entreprise.
Ouais.
Enfin, je veux dire, jamais en période longue. Toujours fait 2 semaines, hein, parce que je suis tellement inadapté à ce truc-là que je me suis toujours fait virer. Tu vois. Le système, je suis pas du tout adapté au système. Parce que je fais de l'honnêteté radicale aussi.
Ouais.
Et que j'arrive pas... en fait, le truc que je supporte pas, c'est le manque de respect. Je ne tolère absolument pas ça. Et j'ai déjà travaillé en restauration, mais dans le rush.
Voilà, le manque de respect, il est là, il est présent, je suis désolée.
Il est présent, mais je leur en mettais plein la gueule.
J'aurais tellement voulu voir cette...
Au client.
Ah non.
Au client.
Ah oui, non mais ouais.
Non mais oui. Une fois, il y a un mec qui m'a sifflé.
Il a pas fait ça?
Non, non. Il m'a sifflé.
Il t'a sifflé, d'accord. Ça t'a rendu dingue.
Je l'ai, je, je l'ai mis sur le bûcher devant tout le monde.
Mon pote thérapeute, il me disait qu'il faut... Les gens, ils n'arrivent pas à faire la dissociation de l'événement et de la personne, en fait.
Impossible, ouais. Ils n'y arrivent pas, du tout.
C'est un truc de fou. Non, même non. Avec les dans tes conflits personnels, etc., dans des disputes, il y a des gens, ils comprennent pas que des fois, c'est juste l'événement qui te fait péter un plomb, ou qui te met en colère, ou qui te fait une émotion, une décharge en toi.
Et puis derrière, ils disent que c'est toi qui es colérique. Bêtement.
Le truc, c'est que aussi les gens, tu leur dis un message, genre toi tu fais la sincérité, c'est ça ?
Non ? Honnêteté radicale.
Honnêteté radicale. Et en fait, il y a aussi ça, c'est le message. Si je le dis avec bienveillance, je suis pas responsable de comment toi tu le vis, en fait.
Ouais, pas du tout. Ouais, c'est vrai ça, t'es pas du tout responsable de comment les gens interprètent.
Parce que des fois, t'es avec tellement de bienveillance, etc. Et genre, on m'a dit que j'étais très cassante. Alors je me suis dit, ouais. J'accueille le fait que des fois, je peux faire de la merde, je peux être cassante. Et après, je me suis remémorée de toute cette relation et je me suis dit, quand j'étais cassante, en fait. Non, et après, je me suis même dit, pourquoi il m'a pas dit que j'allais trop loin, que ça le mangeait, tu vois, que ça lui faisait mal, que ça le remuait. C'est aussi de sa responsabilité de dire, non, là, tu vas trop loin. Là, j'aime pas.
Oui, mais de toute façon...
Tu vois, la communication...
De toute manière, quand on t'accuse de quelque chose, la responsabilité est de deux côtés.
C'est ça, oui.
Je suis tout à fait d'accord pour dire tout de suite les choses. Ouais, pour dire là... Et ça doit être d'accord, tu vois. De dire, écoute, là, je suis pas OK avec ce qui se passe. Tu vois. Dire, t'as pas fait exprès, c'est pas grave, c'était pas intentionnel, mais là, ce que tu fais, c'est pas OK, pour moi. En fait... ils sont pas responsables pour la raison très simple que quand tu parles avec quelqu'un, c'est deux réalités qui se confrontent. Donc toi, ta réalité est pas la même que la réalité de quelqu'un. Donc quelque chose qui arrive dans ta réalité peut pas être perçu de la même manière que quelque chose qui arrive dans la réalité de l'interlocuteur. Ben derrière, en fait, ce qui toi dans ta réalité peut sembler normal va peut-être ne pas sembler normal dans la réalité de quelqu'un. C'est pour ça que toi t'es pas responsable de la manière dont est accueilli n'importe lequel de tes propos dans la tête de n'importe qui. T'as pas à t'en soucier d'ailleurs. La mécanique sociale, c'est un jeu. Et ce jeu-là m'excite beaucoup. Ce jeu-là me plaît énormément. La mécanique sociale, je trouve ça impressionnant.
Ben, après, quand tu tombes un peu dans quoi, un peu les neurosciences, la façon de penser...
Ouais, mais avec la magie.
Ouais.
On se rend pas compte à quel point la magie, ça touche au dialecte social. Dans le sens où, comment dire, si tu veux vraiment faire de la magie, à un moment donné, il faut que tu t'intéresses de très très près à la psychologie humaine. Pour savoir comment être le beaucoup plus impactant, comment réagir à n'importe quelle situation. Parce qu'il peut y avoir de tout. Tu peux avoir des nanas qui vont... Enfin, des nanas ou des gars. Mais qui vont pleurer devant ton tour de magie. C'est déjà arrivé. Des gens qui vont partir en colère. Des gens qui... Et savoir lire ça sur le corps des gens. Savoir comment interpréter leur prosodie. Leur manière de parler. Ou comprendre le contexte social dans lequel t'es. Si tu rencontres des personnes quand t'es en entreprise ou quand t'es dans un bar. Je sais pas, tu vois... Il y a tellement de facteurs, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui donnent ça, que si tu t'intéresses pas à la psychologie humaine, tu peux pas arriver au résultat de cette addition. Donc moi, je m'y suis intéressé assez tôt, mais ça me paraît... j'ai aucune envie de m'arrêter à le faire. Parce qu'en fait, je me dis pas ça va être un problème pour la relation avec les gens derrière, mais je me dis c'est un jeu et je veux gagner la partie. Tu vois.
Mais après, toi, c'est aussi en corrélation avec ton travail.
Ouais.
C'est pas pareil. Je parle juste des gens, des fois, qui creusent trop. Tu vois, qui creusent trop loin. En fait, c'est ça, le développement personnel. Et après, faut pas tomber dans des mouvements de secte, etc. Je trouve qu'il y a une ambivalence, tu vois, assez certaine, existante. Et on pourrait créer facilement des sectes.
Oui, dans le coaching, il y en a...
Oh, c'est pas facile, hein. Franchement, je suis désolée, hein, mais ouais, faudrait faire la part des choses.
Dans le coaching, il y en a énormément, des sectes qui n'en sont pas, je veux dire.
Oui, pas officiel.
Il y en a énormément, je veux dire, j'en ai fréquenté, mais tu te rends pas compte, en fait, avant d'y être.
Oui, parce qu'ils ont les bons trucs. Tu vois. Comment tu t'en captes que t'es dans la merde ?
Bah, quand tu dois...
Quand ils disent ça, tu t'as donné 10%.
Non. Comment tu te rends compte que t'y es c'est très difficile, en fait. Hein. Tu te rends compte une fois que t'y es plus, en fait. Tu vois. Moi, j'ai eu de la chance parce que je me suis toujours détaché assez naturellement de toute dérive sectaire. Mais.
Bah, la dérive, elle est tellement, je pense, infime.
Mais oui, en fait, tu glisses, hein. Tu glisses, t'en rends même pas compte. Et puis un jour, boum, tu te retrouves au milieu de. Tu regardes ta vie, tu fais autour de toi. Mais attends, y a toi. Ah merde, mais vous êtes tous.
Genre à stress.
Oui, entre autres.
Oh my god.
Tu te retrouves entouré de gens qui, en fait, sont là par intérêt, sont là parce qu'ils ont envie d'utiliser toi, d'utiliser ton image, de. Tu vois, ou je sais pas. C'est.
Là, qui veulent prendre.
Qui veulent prendre. Mais c'est ok de prendre, en fait. Mm-hmm. Je suis pas contre le fait de donner.
Oui, mais c'est pas pareil. Parce que tu donnes. Mais il y a aussi l'aspect, les gens, ils viennent pour prendre.
Ils sont intéressés déjà de base.
Voilà.
Oui, c'est ça.
C'est pas, à mes yeux, c'est pas pareil.
Ouais, je préfère le sans intérêt, du coup. Ça, c'est paradoxal à dire. Je préfère quand c'est sans intérêt.
Bah non, c'est mieux parce que moi, tu n'as pas d'attache dessus.
Ouais, mais avoir une attache, pour moi, c'est ok aussi.
Ouais.
Tu vois. Je préfère que mes relations soient émotionnelles. Mmh. Donc, avoir une attache, moi, ça me va tout à fait, qu'elle soit négative ou positive, en fait. Ce qui me pose problème, c'est quand cette attache, elle devient pernicieuse.
Ouais.
Et quand ça se transforme en relation toxique.
Ouais, faut pas tomber là-dedans, quoi.
Tu vois. Après, le jeu est fin. Maintenant, derrière, si t'arrives à repérer ta relation toxique et que t'arrives à la virer, ben voilà, c'est fait, tu la tèches en mieux. Et en vrai, en un appel, en 5 minutes, c'est fait. Mmh. Et t'as aucune justification à donner, t'as rien à faire, voilà, c'est terminé, c'est tout, tu vois.
Donc, méfiez-vous, quand même.
Ah ouais, mais... Tu sais, moi, je me rappelle, par exemple, il y a... Alors, c'est pas des sectaires, mais pour parler des gens qui sont autour de toi, il y a 2 ans, quand j'étais à la rue, et que je demandais à des gens de m'héberger,
personne.
Ben, tu vois très vite,
ouais,
qui te dit oui et qui te dit non. C'est simple. Il y en a 3 qui m'ont dit oui. Surtout les gens que je pensais mes amis. Tu te rends compte? Je me suis retrouvé avec 3 personnes, en fait. Ce qui est très bien, hein. C'est mieux que 2. Mais tu te retrouves avec 3 personnes alors qu'en fait je pensais avoir toute une famille autour de moi. En fait, tu fais mais. Bah non. Et tu, en fait, c'est là, tu sais, c'est là ce moment où tu regardes autour de toi, tu fais mais y a toi.
Et tu disais quoi les gens?
Tu m'as laissé dormir dans la rue en fait. Plutôt que de me laisser un bout de chez toi en fait.
Les gens ils disaient quoi?
Non, pas ce soir. Non, j'ai un truc. Non. Mais ce qui est ok.
Oui, mais bon, ça, au coup, je pense que ça a dû te faire mal.
Bah, je pensais pas trop au fait que ça me fasse mal. Je pensais plutôt que ça me faisait chier par rapport à où j'allais dormir le soir.
Ouais. Parce que moi, j'ai un petit appart et je sais qu'un pote, il a été aussi à la rue. Il a galéré à trouver un appart et tout. Et j'ai un minuscule appart. Et je lui dis, gars, dors sur mon canapé. Bon, t'es un peu grand, mais dis-moi. Genre, au moins un soir. Même si, voilà. Au pire, tu rends mon lit et on met une muraille de Chine, tu vois, on s'en fout, tu vois.
Et encore, si c'est David Copperfield, il la traverse.
Ne pas dormir avec n'importe qui.
Ne pas dormir avec David Copperfield.
Grave.
Vous l'aurez compris.
Non, mais ouais. Et en fait, les gens, ils oublient la puissance de, des fois, juste tendre la main. Une fois.
Absolument. C'est tout. Y a pas besoin rien, de plus.
Ouais, tu demandes pas de l'or.
En fait, je demandais même pas... C'est en hiver. Ah. Je demandais même pas un lit. Je demandais d'être au chaud, c'est tout.
Ça dure combien de temps?
2 mois.
Ça devait être les 2 mois les plus longs de ta vie?
Non.
Même pas?
Non.
Ça va?
Non, non, il y a eu pire.
Oh putain.
Il y a eu pire.
Et t'en as tiré quoi d'être SDF pendant 2 mois? Enfin, ça t'a apporté quoi? Ça t'a... La résilience? T'en as eu ou je sais pas? Non, mais d'une expérience, c'est...
Ouais, non, je souffle pas pour dire... Qu'est-ce que ça m'a appris? Que tu peux pas croire en tout le monde, tu vois. Que, ben, ouais, j'ai un statut précaire, et oui, ça va être difficile, que tu peux pas... Que tes amis sont pas nécessairement tes amis, tu vois. Je pense que c'est surtout d'un point de vue relationnel que ça m'a appris, en fait, cette histoire. De se dire, t'envoies un message pour savoir, non, mec, non. Alors que derrière, j'ai trouvé un pote, il a accepté de m'héberger pendant 2 semaines sans problème. Enfin, il m'a dit, tant que t'as pas de logement, tu dors chez moi.
Non, mais ça, c'est des gens...
C'est là, tu fais, mais mec, c'est parfait, en fait.
Et est-ce que c'était des gens proches ou des gens pas trop proches?
Des gens très proches.
Très proches qui ont accepté?
Très proches, des gens avec qui j'étais en internat.
Ouais.
Qu'à dire que je salue et que j'aime. Qui m'a dit, je t'héberge autant de temps qu'il faut. Voilà, c'est... C'était que des gens qui sont très très proches. Ouais. Ouais. De toute façon, j'envoie que des messages à des gens proches.
Ouais, hein. Non. Mais des fois, je me dis, quand t'as plus d'issue, peut-être que tu
ouvres. Bah, mais tu sais, et derrière, tu sais ce qu'il faut. Quand tu leur dis, ouais, j'ai été SDF et tout. Oh, mais tu m'as pas dit.
Ouais, ta gueule.
Non, mais, ouais. mais attends, pourquoi, tu
remontes les messages.
T'aurais dû m'envoyer un message, mais vas-y. On va pas être vulgaire.
N'est pas politiquement correct. Mais ouais, et tes parents?
Bah en fait, ouais, ils savaient. En fait, j'avais beaucoup de prestats à ce moment-là. C'était en décembre, donc le mois de décembre, c'est un mois très riche pour les prestats. Et j'avais des prestats, pas tous les jours, mais quand même pas mal. Et ils habitent à Mulhouse, mes parents.
Ouais. Ils sont pas inquiétés?
Bah ça m'aurait coûté cher, en fait, ouais, de faire les allers-retours.
Non, mais ils sont pas inquiétés que...
Ah si. Si.
Ouais, c'est la vie, quoi. Expérience.
Bah c'est ça, hein. Tu vois, ça n'a fait que étayer le fait que certaines personnes de ma famille me disaient bah je savais que ça allait pas marcher, c'est pas un vrai métier, machin et tout.
Les briseurs de rêves.
On le connaît, c'est pas grave, hein. Je vais te dire, et même ça doit être ok, je vais te donner un exemple par exemple. L'autre jour, quand mes grands-parents ont appris que je suis retourné à Mulhouse, ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit, ouais, alors ça te fait quoi le retour en arrière, Mulhouse
Peut-être un retour en avant, enfin c'est peut-être...
Je sais pas, un retour en arrière à Mulhouse, ça y est, t'as enfin un CDD en 35 heures
et tout, mais ça, ils parlaient de leurs peurs et leurs croyances.
Et ouais, bien sûr, et on a raccroché, et en fait, 10 minutes après, je les ai rappelés, et je leur ai dit, je leur ai fait, écoutez, j'apprécie beaucoup qu'on s'appelle, mais si vous m'appelez pour me dire ça, vous pouvez vous abstenir. Je suis pas ok avec ça. Et mon grand-père qui disait derrière, ouais, je savais que ça allait pas marcher, c'est pas un vrai métier et tout machin. Je fais, en fait, ce genre de remarques, vous voulez garder pour vous. Je vous aime vraiment très profondément, mais si c'est pour me dire ça, vous pouvez vous taire.
Honnêteté radicale.
J'en ai plus jamais entendu parler.
Ah, mais il faut mettre le haut là de toute façon.
Ah oui, bien sûr. Il y a pas d'histoire de famille, d'histoire de... Non. En fait, c'est trop important. Mm-hmm. Ils comprennent pas. C'est le projet d'une vie là qui est en train de se jouer. Tu peux pas arriver et dire je savais que ça allait pas. Non, ça n'a pas encore marché. D'ailleurs, si, ça a déjà marché. J'en vivais de la magie, c'est pas la question. Mais tu vois, ça ne marchait plus. Mais pour eux, la réussite financière, c'est quand tu gagnes, tu vois. Voilà. Donc, et pour eux, c'est ça, la réussite de la vie, c'est gagner de l'argent aussi. Donc, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui n'est carrément pas totalement vrai non plus. Et voilà, maintenant le fait que ça marche plus, tu vois. Donc bon, c'est important de dire les choses aussi. Mais ouais.
Plein d'entreprises ont des phases où ça ne marche plus en fait, et soit ils font une page blanche, ils recommencent. Tout un truc en fait, ils disent ok. Et sont, en fait, c'est l'inspiration que toi t'as.
Je m'inquiète pas du tout.
Bah voilà, c'était assez inspiré, ça te fait vibrer, etc. Tu sais que ça met du temps, tu sais que t'as eu des humiliations, tu sais que t'as eu des échecs. Mais même si tu te dis putain, c'est de la merde, ça me fait chier, mais je m'en bats les couilles, je le fais.
Bah ouais, là de toute façon, tu vois, c'est un peu serrer les dents pendant un an. Et si tu es lyonnais et que tu écoutes ce podcast, sache que ben, je vais venir retourner ta ville.
Voilà. Non, je faisais dans le game.
Non, mais c'est pas ça, mais je le
mais
dis.
T'as raison.
Je veux pas que ça sonne prétentieux ni rien, mais je vais vraiment m'arracher le cul pour retourner Lyon. Et je vais faire beaucoup de bruit. Et ça va marcher à Lyon. Voilà.
Bah c'est ta page blanche.
C'est la page blanche, totalement, absolument. Changer de ville avec un nouveau compte en banque, avec des nouvelles connaissances, avec un nouvel appartement. Voilà, avec une nouvelle confiance, tu vois. Ça va être totalement différent, ça va être très bien.